Bien, chers amis, nous allons commencer, et je vous le dis tout de suite, nous ne terminerons pas le psaume 119. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que si vous avez jeté un coup d'œil sur ce psaume, qui est le plus long du corpus biblique du recueil des psaumes, 176 versets, ça serait tout à fait pas sérieux de vous dire qu'on va prendre les versets les uns après les autres, et que vous ne rentrerez chez vous que lorsqu'on aura atteint les 176 versets. Demain matin, dans le meilleur des cas. Et la deuxième raison, qui est un peu plus théologique, c'est qu'après tout, je crois que c'est un psaume qui est fait pour ne pas être achevé. Deux remarques préalables pour aborder ce psaume. La première, c'est une citation de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer qui a commencé le commentaire du psaume 119 et qui ne l'a pas fini. Il s'est même arrêté assez rapidement. On peut le trouver chez Labor et Fides dans le livre de la vie communautaire. Il y a le commentaire de son livre des prières et il y a notamment un petit passage sur le psaume 119. Et je vous en ai tiré une citation. D'ailleurs, ça commence par ces mots-là. Je trouve que ça nous met bien dans l'ambiance. La longueur et l'uniformité du psaume 119 nous le rendent peut-être particulièrement difficile d'accès. Nous pouvons nous aider en avançant très lentement, calmement et patiemment, d'un mot à l'autre, d'une phrase à l'autre. Nous comprendrons alors que les répétitions apparentes ne sont rien d'autre que de nouvelles tournures d'une seule et même chose, l'amour de la parole de Dieu. De même que cet amour est infini, ainsi les paroles qui le reconnaissent. Elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Et donc, vous voyez, c'est une démarche infinie que nous propose le psaume 119. C'est peut-être aussi pour cela qu'il est si long. On va voir pourquoi cette forme-là. Mais il me semble que l'un des premiers éléments pour comprendre pourquoi il est construit ainsi, c'est que justement, il y a le désir de dire que ce dont il parle, la loi, la parole de Dieu, est quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. Alors, la deuxième raison, donc, qui tient à la forme, je vous fais passer le psaume 119, il y a quatre pages du coup. Il y a, alors c'est quatre pages dans la traduction française, et puis il y a une page d'hébreu que vous pouvez prendre même si vous ne lisez pas l'hébreu, on ne va pas prendre le texte hébreu autrement que pour le regarder. C'est juste pour voir comment il est présenté. Alors le plus compliqué pour vous, c'est de prendre la page dans le bon sens. Mais heureusement, en haut à gauche, c'est écrit psalmi, en caractère latin. Et donc vous savez dans quel sens prendre la feuille. C'est écrit psalmi, qui est donc la version latine de psaume au pluriel. Bien. Donc, j'ai présenter les quatre pages de la traduction française de manière à... Oui, c'est Louis II. De manière à rendre compte de la disposition hébraïque que l'on retrouve donc sur cette photocopie d'un petit bout du texte hébreu, le texte massorétique. Il y a donc 176 versets. Si on était en linguistique, on dirait 176 distiques. Et c'est découpé en 22 strophes de 8 vers. Donc, 22 strophes de 8 vers font 176 versets. Et ce que vous voyez dans le texte hébreu, c'est que chaque strophe, on pourrait dire chaque paragraphe, a cette particularité que chaque phrase commence par la même lettre. Donc, vous voyez, intéressez-vous simplement au dessin. Alors, la première lettre, évidemment, elle est à droite de la ligne. C'est-à-dire que ça se lit de droite à gauche, l'hébreu. Donc la première lettre, elle est à côté du numéro du verset. Et donc vous voyez que paragraphe à paragraphe, on a toujours la première lettre qui commence la phrase. Et ce n'est pas une lettre qui aurait été posée au départ, et ensuite on écrit le verset. Non, c'est la première lettre du premier mot de chaque ligne. Donc, chaque strophe est écrite de cette manière. On suit l'alphabet hébreu, et pour chaque strophe, chaque ligne commence par un mot dont l'initiale est la lettre du paragraphe ou de la strophe. Donc vous voyez cette architecture assez particulière. Ce que je disais tout à l'heure, ça ressemble un peu à des exercices de style finalement. C'est un peu un psaume à la Queneau ou à la Pérec. Et forcément, cet élément formel nous dit quelque chose, c'est que la forme prend le pas sur le fond. Donc, il ne va pas falloir essayer de trouver dans ce psaume un contenu sophistiqué, un contenu avec un message qu'il faudrait interpréter. L'effort s'est concentré sur la forme, et donc c'est la forme qui est, à la limite, plus signifiante que le fond. Si vous avez eu l'occasion de lire, d'ailleurs on va lire comme ça quelques parties pour prendre un peu le style, c'est très redondant, c'est très répétitif. On se dit, mais en une strophe, on avait tout dit. C'était pas la peine de nous en faire 22. Bien. Donc vous voyez, le travail formel nous dit quelque chose. Et la forme, on l'apprécie aussi par la traduction française telle que je vous l'ai présentée. Vous voyez que pour chaque paragraphe et pour chaque phrase, un mot est mis en gras. Eh bien, ces mots qui sont mis en gras sont des synonymes de loi, de la loi. Et en fait, ce qui apparaît à la lecture un peu plus rigoureuse de ce texte, c'est que chaque verset, chaque phrase contient le mot loi ou l'un de ses synonymes. Donc vous voyez la structure de ce psaume, on suit l'alphabet, chaque verset commence par la lettre de l'alphabet dans l'ordre des strophes, et chaque phrase contient un mot relatif à la loi. Donc Dietrich Bonhoeffer a tout à fait raison dans la phrase que nous venons de lire, c'est une ode à la loi, et il va falloir qu'on en dise un peu plus sur ce qu'est la loi pour qu'on n'en reste pas simplement une histoire de code pénal. L'amour de la parole de Dieu. Commençons un peu par vos impressions, si vous avez jeté un coup d'œil sur ce psaume. J'ai entendu quelqu'un me disant, ah ben voilà, enfin là c'est un psaume compréhensible, un psaume intéressant peut-être même. D'autres m'ont dit, oulala, il est long, sous-entendu, oulala, trop long. Alors il se répète. François.
Moi, ça me fait penser au film qu'on voit de temps en temps, du mur des Lamentations, avec des Juifs qui sont comme ça, et qui se cognent et qui répètent inlassablement, enfin, tout le monde le suppose, parce qu'on n'est pas avec eux, la même chose. Et je vois assez bien les Juifs répétant, parce que c'est, effectivement, il y a 17 fois le mot statut, et à l'intérieur, c'est toujours la même chose, hein, enfin, c'est redondant, comme tu dis. Mm-hmm. Et je sais pas, je vois les Juifs faire ça, en récitant ce psaume.
D'accord. Donc, la répétition, le côté sinusoïdal. Françoise.
Alors, moi, j'ai vu sur la forme une ode à l'amour, alors vivant, complètement.
À l'amour.
À l'amour, oui. Passionné, voilà ce que j'ai vu. Très sensuel, enfin, qui sollicite tous les sens. Il y a la bouche, il y a l'âme, il y a tout, quoi. Tout le corps, il passe. Donc, j'ai trouvé que c'était bon, comme une déclaration d'amour. Donc, ce qui est dit aussi, l'amour de la parole.
Oui.
Il y a quelque chose de
très fougueux, en fait. Oui. Alors, cette ferveur, elle peut notamment être appuyée par le fait qu'il y a effectivement un seul thème. Vous voyez, c'est comme si il y avait une sorte de passion, d'exclusivisme, hein, parce qu'effectivement, tout est concentré sur la parole de Dieu, et donc, c'est une sorte de passion amoureuse, pour reprendre ce que vous dites. Cette ferveur, c'est quand il y a un seul objet du désir. Et il y a un seul objet du désir ici. Oui.
Moi, c'est par élimination. Je n'ai pas trop vu me dire que ce n'est pas une réponse unique. pas, ce n'est pas. C'est quelque chose d'autre. Pour moi, ce ne sont pas ce qui me frappe des Jérémiades au sens galvaudé et au sens péjoratif.
Mm-hmm.
Ce n'est pas une répétition de plainte. C'est vrai qu'on le sent, le mouvement que vous dites, le mouvement scandé. Bon. Et dans ce mouvement scandé, néanmoins, j'ai l'impression que ce n'est pas non plus une façon de répétition, un peu à la façon de la tête de Foucault de Pascal, le reste ne vient pas par surcroît. Ce n'est pas non plus cet aspect-là. L'élimine aussi. Ce qui est quand même au cœur de tout, c'est qu'il y a une demande et une plainte, mais en même temps, il y a toujours cette déclaration d'amour et du mal. Alors,
où est-ce que vous la repérez, la plainte?
Oui.
La plainte, vous la repérez où?
Fais-moi revivre.
D'accord. La demande.
C'est un refrain.
D'accord.
Fais-moi revivre. Alors, toujours, je me suis un petit peu éduquée récemment, disons. Fais-moi revivre, non pas de la mort, c'est pas une résurrection, mais du chéol, d'après ce que j'ai compris.
D'accord, oui.
Du chéol, c'est-à-dire, fais de moi un vrai vivant.
Hmm. Oui, c'est-à-dire le Sheol, le lieu où plus aucune parole n'est exprimée.
On ne fait plus partie du monde des vivants.
Mmh.
Et alors, il y a des mots quand même merveilles, il y a l'admiration. En plus, il n'y a pas que l'amour, il y a l'admiration de quelque chose qui dépasse. Et surtout, c'est une demande de l'intelligence
des précepteurs. C'est l'intelligence. Mmh.
Donc c'est bien une prière.
C'est
une prière en sens de demande.
De confiance et d'amour, parce que c'est vrai que c'est presque un dialogue, je crois qu'à un moment donné, il y a même une réponse que donne le psalmiste, qui est censée être la réponse d'un petit trait quelque part, je crois, dans le nom.
Ça dépend des éditeurs.
Oui, des éditeurs. Je vais peut-être un peu loin. Et là, c'est. Bon, il y a adhésion au précepte,
mm-hmm.
parce qu'il y a amour, effectivement, mais c'est comme s'il y avait le désir de mieux comprendre intelligemment.
D'accord, donc, et la passion est quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'intelligence, de la raison. Vous aviez aussi une remarque à faire ?
Oui, parce que j'ai trouvé, moi, que ça donnait les deux piliers d'une société, c'est-à-dire l'appel à la justice et l'appel à l'éducation, à l'enseignement, avec cet appel à l'intelligence et au travail, à la méditation. À plusieurs reprises, aide-moi à méditer. Donc, il faut que je travaille. Appel à l'intelligence, ce n'est pas une foi donnée n'importe comment. On doit comprendre ce qui se passe. Et la justice est constante dans presque toute la longueur du psaume. Appel à la justice, ça paraît la chose essentielle dans le psaume. Pour moi, tout au moins.
Oui. Sachant qu'il y a effectivement loi, jugement, justice, statut. Alors après, les traductions dépendent un petit peu des éditeurs. Ce qu'il faut, c'est retourner aussi au terme hébreu pour pouvoir faire la classification, mais ça, je vous en offrirai. Il y avait deux remarques, et puis vous.
Oui, je dis qu'il y a aussi de la joie, là. Il y a un peu de la répétition, il y a beaucoup de joie aussi.
L'enthousiasme.
Oui, il y a du plaisir, il y a. Qu'est-ce que j'ai vu là ? J'ai vu, je prends du plaisir, tes ordonnances sont mes chansons.
Mm-hmm.
Hein. Donc il y a
c'est jouissif.
D'enthousiasme, hein. il y a beaucoup de joie, hein. Et malgré le côté répétitif. Hein.
Je ressentis très fort l'effet de la litanie comme quelque chose d'apaisant par la répétition. Et en même temps, quelque chose où il se conforte sur, finalement, un principe. Alors, d'abord, j'ai ressenti ça comme un contrat. Je fais bien, j'oublie bien ta loi, et toi, tu me bois protection. Et puis, à l'autre lecture, j'ai trouvé ça plus dans le sens que disait madame, comme quelque chose d'une promesse d'amour. C'est-à-dire, je me soumets, je fais tout, je te dis que je t'aime, mais j'attends en retour, et je me réassure que toi, tu m'aimes, et tu me donnes la vie.
Mmh.
Parce que c'est par la loi que je vis.
Mmh.
Oui, moi je vais juste, on va peut-être revenir dessus, c'est une précision sur le terme d'intelligence, parce que quand on lit le texte, on retrouve des concepts, des termes qu'on voit dans les autres psaumes, mais intelligence répétée autant, bon je ne suis pas un spécialiste des psaumes, mais ce n'est pas un mot qu'on voit très souvent aussi répétitif, il y a un, il y a quelque chose qui diffère par rapport à ça. Son statut aussi, je n'ai pas compris parfaitement le sens qu'on peut donner à ça.
Ça va être l'objet.
On a une vision, nous, enfin moi j'ai une vision contemporaine, mais quel est le sens derrière du mot statut, c'est important pour vous en préciser.
Oui.
Bon, c'est vrai qu'on trouve plein de choses. Moi, il y a un verset que j'ai enfin découvert, je ne savais pas d'où il venait, c'est le verset 105.
Ah oui.
Souvent en culte.
Ta parole est une lumière.
Voilà,
ça y est,
je sais d'où
c'est bon. Mais
il y a
un autre
psaume. Hein. Oui, tout à fait, mais là on le revoit bien
au milieu. Oui, c'est bien du psaume 119 que ça vient, oui.
Ce qui est intéressant, c'est la phrase qui s'y donne.
Ah oui.
Parce qu'elle ressemble au sens du psaume.
Alors. Oui. Alors, vous voyez, par rapport à cet aspect de la litanie, il y a effectivement l'élément réconfortant, sécurisant que vous avez évoqué. Je disais tout à l'heure à quelques personnes, la litanie a aussi cette caractéristique hypnotique. C'est-à-dire que ça sert à canaliser l'attention de la personne, comme un hypnotiseur pourrait le faire. Et c'est ce qui arrive souvent, d'ailleurs, dans des activités à caractère religieux. Il y a une répétition quasiment à l'infini qui permet de captiver l'attention de la personne. À la fois, on fait baisser ses systèmes de sécurité et on le met dans une disposition de semi-éveil. Alors, le principe des mantras, mais aussi des répétitions de refrains, de cantiques, ou alors le chapelet, par exemple, le rosaire. Hein, on répète comme ça. Si vous écoutez Radio Notre-Dame vers minuit, vous êtes dans une sorte de litanie qui vous rend disponible pour autre chose. C'est vraiment le caractère formel, c'est de rendre le croyant disponible pour autre chose. Les personnes qui ont travaillé sur la pragmatique du discours, sur le langage performatif, c'est-à-dire le langage qui atteint ce qu'il veut dire, ont repéré que pour certaines thérapies, il fallait parfois neutraliser l'hémisphère droit du cerveau, qui est l'hémisphère de la raison, et qui est non seulement celui qui a les capacités de provoquer des défenses pour résister à un discours, pour ne pas se faire manipuler, et en même temps celui qui donne du sens à ce qui est dit. C'est la rationalité. Et en neutralisant cet hémisphère droit, on valorise du coup l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère de la poésie, de la créativité, de l'imagination, et qui est plus réceptif à la narration, qui est plus réceptif à la forme, à l'esthétique. Et du coup, pour certaines personnes, il s'agit, dans le cas d'une thérapie, de pouvoir bloquer les processus de défense, c'est-à-dire refuser tout ce qui vient de l'extérieur, pour pouvoir avoir accès à ce terreau plus fertile qu'est l'hémisphère gauche. Donc ça relève bien sûr de la manipulation, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire une fois ou l'autre, tout acte de langage est un acte de manipulation. Hein. Dès qu'on prend la parole, c'est pour manipuler l'autre, sinon on arrête de parler. Hein. Si c'est pour qu'on reste sur nos positions, ou alors on fait une petite symphonie, mais... Oui.
Est-ce que, avant de rentrer dans...
Oui.
On sait dans quelles circonstances les Juifs récitaient ce psaume. C'est quand même quelque chose, c'est une invocation personnelle. Mm-hmm. On n'imagine pas toute une foule disant en même temps la même chose. Mais dans quelles circonstances, contrairement au psaume des degrés, qui sont des petits psaumes du début, et puis qu'on récitait en montant quelques marches, là, ça échappe complètement. Enfin, c'est vraiment quelque chose de différent et d'autre. Mm-hmm.
Alors, effectivement, la longueur semble indiquer que c'est plutôt un psaume à utiliser individuellement. Mais je crois qu'il a en fait soit une portée liturgique telle qu'on vient de l'évoquer, la litanie, soit une portée théologique, et c'est d'expliquer ce qu'est la Torah. et de pouvoir célébrer la Torah. Et alors, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la joie. Il y a une fête en judaïsme, c'est Simrat Torah, c'est la joie de la Torah. La Torah, c'est extrêmement joyeux parce que, en quelque sorte, la Torah est au judaïsme ce que le Christ est au christianisme. D'ailleurs, on va peut-être même pouvoir considérer que ce que le judaïsme fait de la Torah rend impossible Jésus-Christ. Peut-être que ça va un peu loin, mais on va voir que Jésus-Christ aurait comme problème pour le judaïsme de remplacer la Torah, qui en fait, maintenant on peut se le dire, est l'alpha et l'oméga. Pourquoi il y a cette construction ? C'est pour aller du début de l'alphabet jusqu'à la fin, donc de l'aleph jusqu'au tav, traduit en grec, de l'alpha jusqu'à l'oméga. C'est que la Torah, c'est précisément la parole de Dieu qui nous précède, qui nous accompagne et qui nous donne une destination. Et donc, c'est exactement ce que Jésus va dire de lui-même. Et du coup, le problème, c'est qu'en dépit de ce qui lui est mis dans la bouche dans l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire il n'est pas venu pour abolir la Torah, on pourrait avoir le sentiment, en étant juif, que tout ce qu'on dit de lui annule et remplace la Torah. La Torah devient inutile. Mais dans une certaine mesure, le christianisme, soyez le bienvenu, le christianisme dit bien que le Christ, c'est l'incarnation du Verbe, de la parole, et donc de la Torah. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en judaïsme, la Torah est préexistante. C'est encore dit aujourd'hui, la Torah était déjà présente quand Dieu créa le ciel et la terre, par exemple. Et d'ailleurs, comment Dieu crée-t-il ? Il crée par la parole. C'est pas avec autre chose que le Verbe, en nommant les choses, en leur donnant une fonction, qu'il crée. Et donc, c'est ça la Torah. La Torah, ce n'est pas forcément une liste de décrets ou de statuts, mais c'est d'abord une parole qui rend les choses vivables.
Là, par rapport au décalogue, alors.
Oui.
Moi, longtemps, quand on parlait de la loi, pour moi, c'était le décalogue. Et la Torah, c'était des commentaires.
Oui.
Eh bien, alors, quand on parle des statuts, par exemple, c'est quoi ?
On pourrait dire que ce sont des décrets. Si on avait utilisé le mot décret, ce serait peut-être plus compréhensible de nos jours. Donc, si on prend le décalogue, il y a un côté assez universel et général. On ne rentre pas dans le détail. Les décrets, les statuts, eux, vont rentrer à un niveau inférieur. Mais par exemple, le « tu ne tueras pas ». Il n'y a pas plus minimaliste et plus universel comme phrase, mais ça mérite d'être commenté, en fait. Parce que le « tu ne tueras pas », qui est un peu un « tu n'assassineras pas », en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça peut être mis entre parenthèses ? C'est-à-dire la légitime défense, par exemple. Oui. Mais, à contrario, est-ce que le « tu ne tueras pas » ne mérite pas d'être un peu radicalisé ? Et est-ce que le « tu ne tueras pas » n'est pas juste le négatif de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? C'est-à-dire que la seule façon de ne pas tuer quelqu'un, c'est de prendre soin de lui. Parce qu'à partir du moment où on est indifférent, en fait, on diminue son identité, on le dégrade. Ne pas regarder quelqu'un, c'est le rendre moins existant. Donc c'est un peu le tuer. Vous savez, quand quelqu'un devient transparent dans un groupe, il est comme mort. La mort sociale, c'est une réalité. Et alors, on peut dire que le décalogue est l'une des expressions, je dirais, atomiques de la Torah, en ce sens que c'est bien une Torah parce que c'est bien un chemin. C'est-à-dire que le décalogue commence, la première parole du décalogue, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. » Et donc, c'est bien 10 paroles qui sont un chemin de liberté. C'est 10 paroles pour rester libre. 10 paroles pour éviter de retourner du côté de la servitude. Servitude, la jalousie, le désir de ce que l'autre possède ou de ce que l'autre est, etc. Désir d'être Dieu. Voilà.
Les Juifs, ils connaissaient par cœur le Décalogue.
Ben, nous aussi.
Ben non, mais attends. Oui, mais pourquoi dans ce psaume, il répète 17 fois « Enseigne-moi tes statuts ». Donc c'est autre chose que le Décalogue.
C'est parce que le Décalogue, c'est le contenu, et là, c'est le contenant, en quelque sorte. C'est l'appel à, c'est l'invitation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un savoir qui nous reste étranger. C'est toute la question de Jérémie. Le peuple connaît le Décalogue, il connaît la Torah, ou plus exactement, il la sait, mais il ne la connaît pas. Et la nouvelle alliance proposée par Jérémie, c'est « plus personne n'enseignera son frère, parce que tout le monde aura la Torah au-dedans de lui. Hein ? On sera circoncis du cœur, et pas simplement des lèvres. » C'est-à-dire qu'on aura digéré, assimilé, c'était un peu ce que je disais dimanche dernier dans la première partie de la prédication, la vie croyante, ce n'est pas de se référer à chaque instant à un verset biblique. La vie croyante, c'est d'avoir assimilé, disons, la Torah, pour rester dans ce champ sémantique, et d'en vivre. Et donc, c'est cette nourriture qu'on absorbe et qui nous permet de pouvoir réagir de manière évangélique, sans avoir besoin en permanence d'ouvrir le texte et de se demander, dans telle situation, qu'est-ce que la Bible ou qu'est-ce que la foi me commande de faire. Et ce psaume 119 nous invite à cela, à intégrer la Torah. Et le fait que ça aille de l'alpha jusqu'à l'oméga me fait comprendre que c'est un chemin entre un commencement et une fin, et que du coup, c'est vraiment l'histoire d'une vie obéissante à ce qu'est la parole de Dieu qui est, comme le Décalogue, un chemin de liberté. Éviter d'être l'esclave de quelque chose, de quoi que ce soit. Peut-être qu'on peut prendre le premier verset. Parce que les deux premiers versets se distinguent de tout le reste. Ça commence par deux béatitudes, en fait. Hein. Alors, le premier verset, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Donc, moi, je dirais que le programme, il est là. Le premier programme, c'est le bonheur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se départir d'une vision contraignante de la loi. Alors, je vous fais un petit topo sur la loi. Un petit bout de catéchèse. Ou un rappel, les fameux trois usages de la loi. Alors, le premier usage, c'est l'usage luthérien, qui est aussi un usage pédagogique. Si j'avais un stylo qui marche, ce serait mieux. Donc, usage luthérien ou usage pédagogique. C'est ce que l'apôtre Paul met en évidence. La loi révèle le péché. Autrement dit, s'il n'y avait pas la loi, il n'y aurait pas le péché. Hein, c'est ce que dit Paul. Pourquoi ? Parce que la loi est un révélateur. Et c'est ce qui se passe lors du culte le dimanche matin. On commence par rappeler la volonté de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On jette un petit coup d'œil sur soi. Et là, on mesure l'écart. Donc, confession du péché. C'est-à-dire que la loi nous permet de voir la distance qu'il y a entre ce que nous faisons et ce que nous serions en droit ou en devoir de faire. Et le péché, c'est cette distance-là, comme j'ai l'occasion de vous le dire souvent. Donc, l'usage pédagogique, c'est de nous montrer nos marges de progression. Hein, c'est pédagogique. Ça montre là où nous avons pu faillir, par exemple. Le deuxième usage, c'est l'usage civil. C'est la loi au sens du code de la route. C'est que pour assurer le vivre ensemble, il faut quelques règles communes. Il faut que nous soyons d'accord sur quelques principes, sur quelques façons de faire. Et le décalogue peut être d'ailleurs dans un usage pédagogique ou dans un usage civil. Le « tu ne tueras pas » qui est décliné de bien des manières, avec tout un tas de gravités distinguées, finalement ça relève de cet usage civil. Donc organiser la vie commune, pouvoir faire société. Et le troisième usage, qui est l'usage calvinien ou l'usage éthique. On dit calvinien parce que c'est Jean Calvin qui a un peu développé ce troisième usage. En fait, on dit soit le troisième usage de la loi, soit l'usage éthique. On ne dit jamais calvinien, mais c'est quand même Calvin qui l'a développé. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'Église réformée a intégré la loi dans le culte. Hein. Les cultes luthériens, en principe, n'ont pas de moment où on dit la loi. Et en principe, dans les cultes réformés, la loi n'est pas avant la confession du péché, elle est après l'annonce de la grâce. Et ça dit tout. C'est que la loi, ce n'est pas d'abord ce qui révèle notre faute, ce n'est pas d'abord une façon d'organiser la vie commune, c'est l'horizon vers lequel nous devons tendre. C'est ce que Dieu nous rend capable de faire. Et c'est pour ça que ça vient après l'annonce de la grâce en principe. Parce que pardonner, nous sommes libérés de pouvoir accomplir l'espérance de Dieu. En bonne théologie réformée, disons. Et donc, l'usage éthique, c'est comment faire pour bien faire. Là, ça serait un peu l'usage moral. Comment faire pour ne pas mal faire ? Quelles sont les choses qui me sont interdites pour préserver mon prochain ? Et là, quelles sont les choses qui me sont recommandées pour prendre soin de mon prochain ? Vous voyez toute la différence ? Je reprends toujours l'exemple qui, à mon avis, est extrêmement significatif. C'est la vie conjugale. Si vous vous contentez de respecter les articles du Code civil, vous n'avez pas rendu votre conjoint malheureux, mais vous ne l'avez pas encore rendu heureux. Pour le rendre heureux, usage calvinien. Fêter les anniversaires, les petits cadeaux inattendus, faire plus que ce qui est demandé, les compliments, rincer les assiettes avant de les mettre dans le lave-vaisselle, tout ce que vous voulez.
Non, j'étais plus, la cour est pleine.
En fait, c'est tout ce que vous inventez pour rendre la vie plus agréable. Et donc, c'est infini, c'est-à-dire que ça ne peut pas être consigné. Parce que si c'est consigné, eh bien ça veut dire que la vie ne produit plus rien de neuf. Or, la loi est toujours en retard sur la vie. Et vous êtes producteur de loi en ce que vous utilisez le troisième usage, c'est-à-dire que vous inventez les conditions du bonheur. Et je vous rappelle, une fois de plus, que c'est le bonheur qui est visé par ce psaume, donc c'est le troisième usage. Ce n'est pas la sécurité qui est visée. C'est pas la repentance qui est visée, c'est le bonheur. Donc troisième usage de la loi. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Donc vous voyez, c'est compris comme un cheminement. Et d'ailleurs, qui marche selon la loi de l'Éternel, on pourrait dire que les croyants, ce sont des cheminots, mais écrits comme ceux qui sont sur le chemin, hein, des cheminots de la Torah.
C'est très fréquent, là, le chemin du tout le
temps. Oui. On pourrait traduire par la voie aussi, et c'est ce qui s'est fait au début. Le christianisme, c'était la voie. Hein, c'était les adeptes de la voie, V-O-I-E, ou du chemin. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, vous avez très souvent le chemin. En plus, c'est un mot assez facile à se souvenir en hébreu, c'est derek. Et aller le chemin, c'est boderek. Donc pour ceux d'une certaine génération, ça, c'est un truc qu'on n'oublie pas, ça, beau des recs. Bien. Hein, le verbe aller, c'est beau. Donc, à peu de choses près. Des recs, c'est très souvent utilisé, par exemple, quand les Hébreux vont entrer en terre promise, ils doivent traverser le Jourdain, et Josué leur dit, Vous allez suivre les prêtres qui portent l'Arche d'Alliance, donc ce qui contient la loi, qui contient la Torah, parce que vous allez passer par un chemin que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que la Torah de l'Éternel ouvre un chemin qui est en plus un chemin, le dernier chemin de liberté, quoi, la dernière étape vers la liberté. Et donc, chaque Hébreu entrant en terre promise devra passer devant l'Arche d'Alliance et la dépasser. Donc il y a l'idée de transgresser la loi au sens de faire mieux que ce que la loi propose à l'instant. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de la réinterpréter. Donc, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel, on pourrait dire que la loi est ici comprise comme un commandement et une promesse. Ce n'est pas simplement quelque chose qui stipule, ce n'est pas simplement un décret, c'est aussi quelque chose qui donne à se projeter. Ça ouvre un avenir. Donc c'est de l'ordre de la promesse.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur l'adjectif intègre ?
Oui.
Qui sont intègres ? Pourquoi ? Enfin, qui sont intègres dans leur voie ? Qui sont sincères, ça veut dire quoi ?
C'est le fait qu'il ne va pas y avoir de compromis. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir du chemin de l'Éternel, qui n'est pas forcément un chemin droit d'ailleurs. Les chemins de traverse existent aussi. Mais en tous les cas, on va rester sur ce chemin. Et en fait, c'est un chemin orienté. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une progression de l'alpha jusqu'à l'oméga, du aleph jusqu'au tav. Et il y a cette idée selon laquelle on ne fait pas demi-tour. Et au fond, ceux qui sont intègres sont ceux qui suivent le chemin et qui vont le suivre en gardant le nez sur l'objectif.
C'est comme le psaume 1, hein, on retrouve ça, hein, et il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs.
Oui.
Il ne s'arrête pas sur le chemin.
Mais ils ne font pas demi-tour non plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme la femme de Lot, qui fait demi-tour, qui regarde en arrière, et pour laquelle l'addition est assez salée quand même. On garde le cap. Oui, on peut éventuellement louvoyer, oui. Mais l'idée, c'est de ne pas perdre de vue cette destination. Et il y a un autre exemple dans les évangiles qui dit cela. C'est lorsque les disciples sont sur une barque en pleine nuit. Et Jésus vient à leur rencontre en marchant sur les eaux. Et ils sont d'abord effrayés. Puis ensuite, il y a ce dialogue avec Pierre qui dit « Mais alors, moi aussi, je peux venir ?»« Ben, bien sûr, viens. » Et puis, on commence à marcher sur l'eau. Et puis, il voit qu'il y a du vent, les vagues, tout ça, la menace. Et il regarde tout ça et il commence à s'enfoncer. C'est-à-dire que quand on perd de vue la destination ultime, alors on commence à mourir. Et donc, la loi et liberté en ce qu'elle est un chemin qui nous fait sortir de l'esclavage. C'est-à-dire que suffit pas d'avoir la Torah dans sa poche ou même de la savoir par cœur. C'est pour ça qu'il s'agit de la pratiquer, mais comme on chemine sur un chemin. Et comme on dit bien souvent, c'est plus le chemin qui compte que la destination, mais il n'empêche qu'il s'agit pas d'errer, de tourner en rond. Il y a le fait de progresser, et c'est dans cette progression qu'on se libère. Et en fait, il faudrait mieux parler de libération que de liberté. Même heureux, ce n'est pas un état, en fait. Chouraki le traduit par « en avant, en marche ». Il y a l'idée de mouvement. Et ce n'est pas une béatitude statique, c'est une béatitude dynamique. Et la loi est ce chemin-là, en fait. Oui, peut-être aussi sur le verset 2, vous voyez, il y a une sorte de paradoxe qui intervient. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Oui, c'est bizarre. Si on garde les préceptes, on n'a plus besoin de les chercher. Et en même temps, si on marche pour, en quelque sorte, vivre de la Torah, on ne peut pas la garder. garder, c'est un peu comme être figé. Sauf si on est dans une, comme une sentinelle, finalement.
Oui, mais garder les préceptes, c'est pas chercher Dieu. Ou tout au moins, c'est pas la, tout à fait la même chose. Garder les préceptes, c'est statique. Chercher, c'est faire un effort vers la connaissance, vers justement l'étude et la connaissance de Dieu. Donc, je trouve que c'est une étape supplémentaire et non pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose, mais on pourrait penser que c'est paradoxal. En tout cas, que c'est en tension.
Je trouve que ça, au contraire, ça s'enchaîne. On a une base, oui, les préceptes qu'on garde, et à partir de là, on est en recherche. Mais si on se trompe, on a toujours la base pour se récupérer. Moi, je vois ça comme ça.
Ouais.
Ça,
c'est... Alors, ça peut être cela. L'autre possibilité aussi, alors si on ne garde pas l'idée de la sentinelle, parce que les gardes, vous savez, les gardes dynamiques maintenant, hein, on en a parlé ces derniers temps, entre les gardes statiques et les gardes dynamiques. Bon. L'autre chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport, alors ça rejoint l'idée de patrimoine que l'on a, c'est-à-dire ne pas l'éjecter. Il ne suffit pas de l'avoir un jour intégré, il faut encore ne pas le rejeter. Il ne faut pas que finalement nous soyons étanches à ce que nous avons reçu. Vous savez, comme certains qui ingèrent des sachets de drogue pour passer les frontières, mais n'en profitent pas, sauf quand ça éclate, quoi. Auquel cas, là, ils en profitent plus que tout le monde réuni. Mais l'idée, c'est d'être perméable. Il faut qu'il y ait de la porosité.
Mais c'est Augustin qui le dit, ça. Il dit très bien, cherchez Dieu, cherchez-le sans cesse, car il est caché. Et quand vous l'avez trouvé, cherchez-le encore, car il est immense. C'est un peu le...
Oui.
Je dirais tous les préceptes.
Ah oui. Cette quête infinie. Et cette quête infinie qui se fait dans, j'allais dire, dans l'enfouissement. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on pense à l'idée du chemin, on se dit avancer, etc. Mais la quête, elle peut se faire dans la profondeur. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème topographique. C'est un problème aussi de démarche intérieure. Le sens est à rechercher et c'est en termes de qualité et pas en termes de distance, par exemple. En tous les cas, le danger ici, ce serait de figer la parole de Dieu. Et comment on fait pour figer la parole de Dieu ? Eh bien, on dit qu'elle est contenue dans des lettres ou dans des mots ou dans des phrases. Et donc, si on considère qu'un texte peut contenir la parole de Dieu, alors on n'est plus dans la perspective du psaume 119. Et en fait, on n'est plus dans la perspective d'une démarche judéo-chrétienne, à tout le moins. En fait, ce serait faire de l'écriture un cercueil qui contiendrait le divin. Et à ce moment-là, le risque, c'est d'en faire une chose qu'on adorerait et qui concurrencerait le Christ. Et du coup, le Christ comme parole incarnée, je vous rappelle, la parole s'est faite chair, elle ne s'est pas faite livre. On n'est pas la religion du livre, ça c'est... Ceux qui disent que nous sommes la religion du livre, c'est pour nous mettre les bâtons dans les roues. On est éventuellement la religion de l'interprétation du livre. On n'est pas la religion du livre. Et donc, on pourrait dire, peut-être pour reprendre un peu ce que vous disiez sur Augustin, quand on a traité une rencontre avec le Christ, il faut encore le chercher finalement. On n'en finit pas d'approfondir cette relation. De même que quand on est ami avec quelqu'un, ben, la rencontre a encore lieu. Dans une relation d'amant, eh bien, on n'en finit jamais de découvrir l'autre. Hein, c'est ce que dit le Cantique des Cantiques. On n'en finit jamais d'aller l'un vers l'autre et de faire plus ample connaissance. Alors, je vais vous faire la suite de la lecture. Je vais vous lire, disons, les deux paragraphes qui suivent pour vous mettre comme cela les choses dans l'oreille. Donc, nous en étions au verset 3. Donc, je reprends le sujet. Heureux ceux qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous tes trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes sont beaux s'asseoir et parler contre toi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Voilà, je m'en tiens là. Vous voyez, c'est un peu comme les proverbes. Le livre des proverbes, c'est une succession de petites sentences qui ne semblent pas avoir forcément de lien entre elles. Et on pourrait avoir l'impression d'une sorte de juxtaposition. Néanmoins, il se pourrait que chaque paragraphe ait quand même, disons, un thème majeur. Et c'est ce que je vous propose sur cette feuille qui est justement issue du travail de Dietrich Bonhoeffer. Il a essayé deux plans, qui sont assez semblables, hein, deux plans pour le psaume 119, des plans qui essaient de donner une cohérence interne à chaque strophe. Et donc, il a intitulé chaque strophe avec ce qui lui semble être le mot-clé. Est-ce que par rapport à ces strophes que nous avons lues, vous avez l'impression qu'il y avait une cohérence interne à chaque fois ? Oui, alors ça, c'est le thème de tout le psaume. Parole, statut, loi... Mais après, est-ce que pour chaque strophe...
Il faut oublier les commandements et les lois pour trouver un peu le sens de... Ce qui est paradoxal, c'est qu'il faut oublier, pour trouver le texte, en fait, je l'ai fait sur 2-3, c'est qu'il faut oublier surtout commandement, statut, tout ça, pour retrouver qu'est-ce qu'il y a en fond.
Oui.
C'est ça, donc quelque part, il faut l'oublier pour trouver quel est le fond.
Oui.
En même temps, on cherche, on l'a oublié, c'est bien. Ce côté se séparer qu'on trouve...
Oui, en fait, comme chaque verset contient un mot en rapport avec la Torah... Eh bien, en fait, ce n'est plus significatif. Et du coup, ce qui est significatif, c'est la valeur ajoutée à chaque fois. C'est comme dans les textes de loi de nos jours. Les juristes savent ce qu'il faut lire dans un texte de loi. Si vous prenez, un arrêté, un jugement de tribunal, vous allez être effaré. Hein. Enfin, je pense que vous n'allez rien comprendre. Le juriste, c'est là où il faut regarder, il y a une ou deux lignes à lire, et puis voilà. C'est comme dans un bilan, quoi. Vous prenez un bilan comptable, vous êtes perdu, il y a deux, trois trucs à regarder, et c'est bon.
C'est l'affaire de trop.
Exactement. Donc, c'est vrai que c'est jargonnant, mais ça permet de pouvoir mettre l'accent en creux. À la fois, cette ultra-redondance dit le thème général, bon ok, on ne peut pas passer à côté, c'est la loi, et en même temps, ça permet du coup de dégager de la place pour ce que chaque strophe ou chaque verset peut contenir comme intérêt ou comme nouveauté. Et finalement, chaque verset peut être un petit enseignement à lui tout seul. Oui, François.
Il y a un verset là qui m'interroge plus spécialement, c'est le verset 19, « Je suis un étranger sur la terre ».
Oui.
Quand on est un étranger sur la terre, d'ailleurs c'est repris à d'autres.
Oui, dans l'Épître aux Hébreux par exemple.
Oui, oui. Ne me cache pas tes commandements. Quand on est un étranger quelque part, ça a une connotation de solitude, on est tout seul, on est paumé, etc.
C'est angoissant.
Hein ? Oui, c'est angoissant. Et alors, je trouve que le reste répond un petit peu à cette constatation. Je suis un étranger, alors ne me cache pas tes commandements, tes sentences, tes statuts, etc. Enfin, tout ce qui peut me permettre de me retrouver. Ouais. Enfin, trouver mon...
Je te rejoins parce que je trouve qu'il y a effectivement une grande solitude quand on regarde, c'est aussi la solitude de l'homme par rapport à lui-même, par rapport aux autres.
Mmh.
Et on voit un peu partout, à un moment on dit l'homme, je suis lié à la poussière, on retrouve aussi à la fin, même à la fin. D'ailleurs, la dernière phrase, c'est ça, quelque part, c'est un appel. Hein. La dernière phrase du psaume, c'est un appel justement à ne pas être seul. Il proclame sa foi, mais le croyant se sent quand même seul.
Mmh. Alors, ce que vous dites, dit deux éléments utiles par rapport à ce psaume et par rapport à la loi. Le premier élément, c'est qu'en fait, la loi cherche à individualiser la foi, par exemple. C'est l'individualisation du croire. C'est-à-dire, l'individu devient l'instance qui fait loi pour la pensée biblique. On le retrouvera notamment avec Ézéchiel, qui va faire cette méditation sur la question de la responsabilité, qui va mettre en évidence la responsabilité individuelle plutôt que la responsabilité collective. Responsabilité individuelle, même au sein des familles, avec cette fameuse phrase « c'est pas parce que les parents ont mangé des raisins verts que les enfants vont avoir les dents agacées ». Donc, il y a une coupure de génération à génération parce que chaque individu est pris pour lui-même. Et chaque individu est donc responsable. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'évidemment, la loi dit la limite. Y compris par rapport à l'histoire de la poussière. La loi dit une anthropologie. C'est le sens du deuxième usage, d'ailleurs, l'usage civil. On le connaît tous, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc la loi dit une limite. Et c'est en mettant une limite à notre liberté qu'on peut créer, d'ailleurs, le désir. Je ne suis pas super bon en horticulture. Tous ceux qui me connaissent le savent. Mais je me lance dans une comparaison. On verra si elle est trop hasardeuse ou pas. Quand vous récupérez une petite plante qui est supposée faire des fleurs, mieux vaut la mettre dans un petit pot que dans un grand pot. Sinon, elle va faire beaucoup de racines et pas beaucoup de fleurs. Eh bien, je vais m'arrêter là. La loi a cette fonction-là. C'est de mettre quelques parois qui nous permettent d'éviter de faire des racines à l'infini, de pouvoir produire des fleurs, du fruit, etc. C'est ce que développe le judaïsme. Vous savez que le judaïsme est très, très légaliste. 613 mitzvot, 613 commandements qu'il faudrait suivre à la lettre, qui sont extrêmement contraignants. Et pour nous, notamment protestants, un peu anarchistes qui marchons dans les clous,
individualistes
en tout cas, mais aussi des fois interprètes personnels de la loi. On se dit, mais quelle contrainte ! Rien que le Shabbat, c'est épouvantable. Et ça tue la vie, des choses pareilles. Eh bien, les Juifs vont dire l'inverse. C'est que dans la mesure où ça a été pensé pour nous, on n'a plus besoin d'y penser. Alors, ça, c'est la réaction typique protestante. Bon. Il n'empêche que, vous voyez, le Talmud qui ensuite donne tout un tas de décrets, de dispositions par rapport à des règles un peu générales sur le Shabbat ou autre chose, c'est une façon de dire... Dans la mesure où votre vie est réglée, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur autre chose. À la limite, concentrez-vous sur la qualité des relations que vous avez les uns avec les autres. Je prends un exemple plus proche de notre culture. Quand vous êtes invité à manger chez quelqu'un, si vous connaissez les règles du savoir-vivre, savoir si on reprend du fromage ou pas, qui on sert en premier, etc., vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Et vous n'êtes pas comme ça, à vous dire, est-ce que je ne fais pas une bêtise, etc. Vous avez intégré la loi, hop, vous savez comment il faut faire, les maîtresses de maison, tout ça, etc. Et du coup, vous pouvez vous concentrer sur la conversation. Mais quand vous dites, le vin, ça va être dans quel verre, le couteau plat, c'est pour faire quoi? Voilà, donc c'est un peu compliqué. La loi, elle est là pour nous libérer, en fait, aussi de ce genre de préoccupations. Mais dans une certaine limite. Et la limite, c'est celle que Jésus pose. Si la loi, ça nous empêche les relations, alors c'est que la loi doit être dépassée. Hein, le Shabbat est fait pour l'homme, et pas l'homme pour le Shabbat. Mais on est bien d'accord que l'homme sans loi, c'est-à-dire sans parole, n'est pas un homme, en fait. L'une des premières paroles qui fonctionne de cette manière, c'est le tiers séparateur que la mère va dire à l'enfant qu'elle allait. C'est-à-dire, c'est le rabbin Mark Loachnin qui dit ça. Quand elle désigne son sein, mon sein, eh ben, ce n'est pas le prolongement naturel de la bouche du bébé. Et donc, il y a déjà du tiers séparateur. En disant une limite, on crée, en fait, un espace qui appartient à la mère, un espace qui appartient à l'enfant, et du coup, un espace que l'enfant va pouvoir investir. L'enfant, le fameux enfant roi, l'enfant sans limite, etc., est souvent un enfant malheureux, en fait. Parce qu'il ne peut pas construire son désir. La limite peut créer, au contraire, la frustration crée le désir. Ce qu'il faut, c'est que la frustration ne devienne pas perverse. Vous avez tous fait cette expérience, en tout cas, c'est un témoignage personnel. Mais il n'y avait rien de pire en cours de français que les sujets libres. Moi, je perdais déjà un temps fou à savoir quel sujet j'allais prendre pour la rédaction. Si on me donnait un thème, bon, bah, j'allais prendre le thème. Mais alors, savoir que c'est comme les prédications pour le dimanche matin. À devoir choisir un texte et pas prendre le texte du jour, c'est épouvantable. Bon, allez, vous me plaindrez un autre jour.
Tu t'en tires pas trop mal, quand même.
Ouais, c'est vrai.
Oui. C'est tous les impératifs à l'égard de Dieu. Faites du bien, ouvre les yeux, ne cache pas. Il donne pas l'ordre à Dieu.
Oui, enseigne-moi. Est-ce qu'on ne fait pas pareil, nous?
À Dieu?
Oui. Est-ce qu'on ne serait pas un peu comme cela, un peu pressant?
Bah, c'est une alliance, hein, c'est dans les deux sens.
Oui. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte d'honnêteté. Il peut y avoir dans les relations. Alors, les relations du croyant avec Dieu sont souvent significatives pour les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que les textes bibliques qui mettent en scène la relation entre l'être humain et le divin créent des histoires pour nous apprendre à être en relation les uns avec les autres. Et je pense qu'il y a, par exemple, des relations qui peuvent être un peu perverses. C'est les relations où on met des formes de politesse qui cachent, en fait, un impératif. C'est-à-dire, range ta chambre, s'il te plaît. Je pense qu'il peut y avoir un petit côté perverse. Parce que le « s'il te plaît » est de trop, en fait. Or, l'enfant, il l'entend, le « s'il te plaît ». Et s'il ne peut rien en faire, alors ça pose problème. Et du coup, on se retrouve dans une situation où les deux attentes sont contradictoires. Oui, c'est ça qui est perverse. Et du coup, on ne prie que Dieu, non? Bon. Oui, oui.
Je te demande de ranger ta chambre.
Oui, oui. En tous les cas, vous voyez, il y a une sorte d'honnêteté, de justesse dans l'impératif qui évite là aussi une sorte de manipulation un peu abusive de l'interlocuteur.
Il n'y a jamais d'ailleurs dans les dialogues entre les gens et Dieu, il n'y a jamais, s'il te plaît.
Non, ni Dieu voulant d'ailleurs.
Il faut attendre les latins qui disaient utinam, plutôt ciel. C'est pas ça, non?
Peut-être. Il y avait une remarque, non? Ah oui. Effectivement, comme tu le rappelais, le Notre Père est assez directif. Hein. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Pourquoi? Parce que on est effectivement dans un registre d'alliance, c'est-à-dire de complicité. Et donc, quand on est deux amis et que l'un dit à l'autre « appelle-moi la semaine prochaine », l'autre ne se sent pas du tout humilié, contraint ou quoi que ce soit. Il se sent désiré. « Appelle-moi la semaine prochaine » ou je ne sais pas quoi, ou « passe-moi le sel », c'est qu'il y a une attente de l'un vis-à-vis de l'autre. En fait, c'est une relation positive, juste. Il n'y a pas de... À la limite, c'est presque sur un plan d'égalité. Il n'y a pas de subordination. Parce que chacun reste libre d'eux. Ou, plus exactement, ce psaume 119 a une caractéristique par rapport à beaucoup d'autres psaumes, c'est qu'il est théologiquement juste. Eh bien, c'est qu'il déploie une image de Dieu qui est correcte par rapport aux autres textes bibliques.
Pourquoi c'est pas correct, c'est du grand n'importe quoi.
Quand l'autre... Quand...
Pardon d'être brutal.
Mais je vous répondre oui. Je vous réponds oui. Les autres, c'est n'importe quoi. Et maintenant que je m'explique, parce que sinon c'est un peu court. Quand le psalmiste demande à Dieu la mort de ses ennemis, je pense que c'est théologiquement incorrect. Mais c'est spirituellement correct. Donc, je m'explique pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ma pensée ne soit pas travestie. Il y a un hiatus. La chose est la suivante, c'est-à-dire que le psaume 119 est plus un exposé théologique qu'une prière. Moi, je crois que dans la prière, on peut tout dire, y compris sa haine, y compris son désir de voir l'autre mourir. Mais la prière ne s'arrête pas là, en principe. C'est un processus, la prière. Et ensuite, la prière est pleine et entière lorsque on laisse Dieu évangéliser sa demande. Donc, le psaume 137, par exemple, peut parler des crânes des enfants à projeter contre les rochers, ce qui n'est théologiquement pas très correct, mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que l'histoire continue. Et au bout du compte, ce n'est pas les têtes des enfants, des ennemis fracassés contre les rochers qui correspondront à la volonté de Dieu, et ni à l'action du croyant. C'est un moment d'un processus. Moi, je crois que l'intérêt des textes bibliques, c'est qu'ils font quelque chose de nos mauvais côtés. Ils font quelque chose de nos faiblesses, ils font quelque chose de nos haines, ils font quelque chose de tout ce qui est détestable. Les textes bibliques gèrent notre péché. Et ils ne le gèrent pas en le niant ou en le mettant sous le boisseau. Ils convertissent. Il y a du changement, il y a la métamorphose, transcendance, tout ce que vous voulez. Là, on n'est pas dans cette situation-là. On est dans un exposé théologiquement correct du rapport entre le croyant et la vie, le croyant et Dieu. Et si on prend certains psaumes et qu'on en tire juste un verset, ouais, c'est épouvantablement pas théologiquement correct. Mauvaise note à la faculté. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça participe d'une évolution du croyant. La prière, elle sert à bouger. Si nos prières étaient théologiquement correctes de Aleph jusqu'à Tav, ce serait des prières, ce serait des déclarations de foi. Et les textes bibliques nous proposent autre chose comme pédagogie.
Et est-ce qu'on ne peut pas dire que la prière, c'est jamais correcte? Parce que c'est ce qu'on ressent.
Elle n'est jamais achevée en tout cas.
Ou achevée, oui.
Ouais. Elle est inachevée par essence. C'est d'ailleurs toute la difficulté de la prière collective. C'est que la prière individuelle, à mon avis, s'autorise à aller beaucoup plus loin dans ce qu'il y a à évangéliser en soi. Et en tous les cas, on n'a pas forcément à faire le grand déballage devant les autres de ce qui mérite d'être vraiment évangélisé. En tout cas, cette pudeur, je trouve, est admissible. Maintenant, s'il y a un vrai climat de confiance entre des personnes, c'est tout à fait autre chose. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les prières le dimanche matin pendant le culte ont un caractère un peu convenu, finalement. Ça ne va pas au bout des choses. Ça donne des mots aux paroissiens, ça leur donne des intuitions, mais il faut qu'après, ils fassent eux-mêmes leur travail de prière ou de priant. Parce que c'est tout à fait insuffisant. Oui, ça peut être un premier pas, ça peut être un complément, ça peut être une reformulation, mais c'est tout à fait insuffisant.
Alors, fait-on bien de réciter le Notre Père ensemble dans le dimanche ?
En tout cas, je dirais, il n'y a pas d'obligation de le faire. Mais, pourquoi on le fait ? Parce que c'est une prière théologiquement correcte et qui, du coup, nous apprend à prier. Moi, ce qui m'intéresse dans ce Notre Père, c'est que ça nous apprend à prier et ça nous donne un peu comme un sommaire de ce que pourrait être notre propre prière.
Moi, je trouve que on a besoin, dans un culte, dans une célébration, on a besoin quand même de pouvoir dire quelque chose en commun et pas uniquement dans sa chambre tout seul réciter notre prière. Oui, on a le chant, oui, le chant.
Ah, oui. Mais... Je crois que tu vas dire qu'on ne peut pas simplement écouter pieusement le prédicateur. D'accord, ok. Également. Alors, je vais peut-être justement vous dire un petit peu quels sont les différents mots qui sont utilisés dans ce psaume par rapport à la loi. Comme ça, ça va justement vous donner les mots pour le dire. Ça va être un peu votre... À la limite... Je crois que c'est aussi l'un des intérêts, c'est d'étayer le vocabulaire du croyant par rapport à la loi. Donc, le premier mot, bien sûr, c'est la Torah. Bon. Ah, disons que... Non, mais c'est pour que vous l'ayez aussi en hébreu, c'est la loi. Qui apparaît...
L'écran d'hébreu.
25 fois. Ça brille ? Je brille ! Comme ça, c'est mieux ? Ou alors, il faut éteindre ?
C'est pas le mode qui a changé.
Vous voulez que j'écrive sur le papier ?
Ah, ça brille, oui. C'est bon, évidemment.
Alors... Je sais pas si ça marche.
25 fois le voile.
C'est bien ça?
C'est pas la perfection, on va perdre.
Non, parce que la perfection est un chemin, justement. Donc, la Torah apparaît 25 fois. 25 fois. Donc, Torah, ça vient du verbe yara qui signifie instruire. C'est l'instruction aussi. Ensuite, il y a Eda. Alors ça, c'est le témoignage. Et on l'a 22 fois. Par exemple, des fois, vous allez voir l'expression dans l'Ancien Testament, l'arche du témoignage. Le témoignage, c'est un peu l'étape de la loi, en fait. C'est-à-dire qu'on écrit ces paroles qui sont les paroles de l'Alliance, et du coup, les tables sont un témoignage de ces paroles qui ont été contractualisées. Ensuite, on a, n'est-ce pas, les Pikudim. Alors, disons que ce sont. Des ordres, et on l'a aussi 22 fois.
Il y a un polyclope à la sortie ?
Non, 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 parce qu'il faut que vous soyez un peu attentif, sinon votre esprit vagabonde. On a les préceptes. Rock. 22 fois aussi. Ensuite, on a mitzvah. Alors, mitzvah, c'est connu parce qu'on a les mitzvot au pluriel. Ça vient de tsawa, ordonné. Hein?
La bar mitzvah.
La bar mitzvah, qui signifie
non.
Littéralement. Donc, bar, fils, mitzvah, commandement, fils du commandement ou fils de l'ordre. Et vous connaissez Barabbas ?
Oui,
le fils du père.
Fils du père.
Comme Jésus.
Oui, c'était Jésus aussi.
Donc, mitzvah, donc commandement.
Barabbas, non, Jésus. Jésus, c'était un nom en fait très connu. C'était pas
ouais.
Que Jésus.
C'est pour ça qu'il était Jésus. 22 fois aussi.
C'est toujours le nom de même, la 2. Il y a 22 paragraphes, donc on l'a à chaque fois.
Ah non, c'est ici 21, pardon. Les ordres, les pikdim, c'est 21, autant pour moi. Ensuite. Les mishpatim, qui sont les décrets. Décrets ou les jugements. Oui, oui, mais c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une richesse dans les textes hébreux qu'on ne soupçonne pas forcément. C'est souvent la justice, Shafat. Les juges sont les Shofatim. Ensuite,
alors, combien de fois,
il y a les Imara. Donc là, ce sont les oracles, les paroles. Et il y a le mot qui est voisin, c'est Dabar. Ouais, 19 fois pour oracle, parole et parole, 24. Dabar, c'est la parole au sens de la parole qui organise, qui décrète. Alors que Amar, c'est plus effectivement la promesse, la parole oraculaire. Ça, c'est le mot qu'on utilise pour la création du monde. Voyomer Yahou, par exemple. Et d'abord, c'est quand Dieu va donner la loi à Noé en sortant de l'arche de Noé. En disant, bah voilà, maintenant, pour canaliser un peu la violence, on va faire comme ça. Et ça, c'est la parole créatrice. C'est ça qui a donné Abracadabra, d'ailleurs. Abracadabra, c'est Ubarak Kedebar. C'est-à-dire, il a créé comme il a dit. Et c'est une parole qui confine. Alors que Abrakamra, c'est la parole qui, au contraire, ouvre. Les magiciens ferment et n'ouvrent pas. Et puis ensuite, on a les mots qui disent le chemin, la route, le sentier. Et donc, voilà un peu le champ sémantique que nous avons et qui a juste comme synonyme donc sentier, chemin et voie.
C'est pas le mot promesse.
En fait, promesse, c'est pas vraiment un mot qu'on a tel quel. C'est, limite, on pourrait dire parole d'avenir. C'est imra. C'est le verbe amar qui parle et qui crée en parlant. Au sens, justement, hein, de déployer quelque chose, alors que le dabar va, j'allais dire, délimiter.
Est-ce qu'on sait à quelle époque il a été écrit ce psaume ?
Non. je peux toujours vous dire qu'au IIIe siècle, il a été écrit, mais alors quand il a été rédigé, c'est trop en débat, hein, ça.
Est-ce que tous ces psaumes ont toujours fait partie d'un même corpus ? Parce qu'ils sont très différents les uns des autres.
Ils ont été rassemblés à un moment donné.
Oui, à un moment donné, ils ont été rassemblés.
Ouais. Parce qu'ils n'ont pas été écrits au même moment. Ils n'ont pas été écrits par les mêmes personnes. On le voit par exemple, il y a un psaume qui dit que la personne qui s'exprime est sur les rives du fleuve Kébar. Donc c'est au moment de la déportation. On a, c'est le psaume 89. Le psaume 89 est manifestement en train de puiser dans la mythologie égyptienne. Alors que le psaume 104, qu'on avait vu ensemble, s'inspire de Genèse 1. Donc s'il s'inspire de Genèse 1, c'est que Genèse 1 est déjà écrit pour le rédacteur. Et Genèse 1 a été écrit au moins au moment de l'exil à Babylone. Enfin, au moins, au plus tard, c'est l'exil à Babylone. Certainement un peu vers le retour, mais... Donc on a de toute façon des moments d'écriture qui sont très disparates. Et je ne saurais pas vous dire si quelqu'un s'est penché sur la constitution du psaume, du psautier. Ce qu'on constate, c'est que, je vous ai dit ça la première fois, le psautier est divisé en 5 sections, comme la Torah, le Pentateuque. Et que c'est l'idée qu'on retrouve là, la même structure, et qu'il y a une autre forme, qui est une forme poétique, pour le Pentateuque, en fait. Je finis peut-être sur des éléments qui vous permettent de voir quels sont les grands thèmes qui sont abordés dans les différents versets. Alors, si vous voulez, je tiens à votre disposition la concordance, mais je ne voulais pas taper parce que ce n'est pas complètement utile. Mais c'est pour vous faire entendre quelques thèmes qui sont abordés et qui sont repris dans plusieurs versets. Alors, il y a bien sûr la question de la transcendance de la loi. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui enseigne sa loi. Et plusieurs fois, on entend que c'est une vérité éternelle, que c'est une émanation de l'éternel, que c'est un guide pour faire le bien et pour fuir le mal. Par exemple, si on prend les versets 89 à 91, on entend « À toujours, ô éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Donc c'est vraiment l'idée de la transcendance. Donc là, il y a un grand corpus de versets qui sont sur la transcendance et sur la parole qui émane de l'Éternel. Le deuxième gros corpus, c'est la connaissance de la loi, bien évidemment. Avec différents aspects, le désir de la connaître, cette passion, ce désir, voilà. Il y a une disposition de l'âme, on pourrait dire, il y a un élan. Ensuite, quelque chose d'un peu plus contraignant, c'est il faut l'étudier, il faut la méditer, il faut la scruter, il faut y réfléchir, il faut s'en souvenir, il faut la prier. Donc on a ça par exemple dans les versets 66 et suivants. « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. » Donc il faut l'étudier. Statut, précepte. Des statuts, des préceptes. Ensuite, il faut l'aimer. Il faut lui faire confiance. Et donc ça relève de la connaissance. Ensuite, le troisième, c'est la pratique de la loi. Hein, comme je vous le disais, il ne suffit pas de la savoir, il faut la pratiquer, donc c'est qu'on l'a suffisamment assimilée. Donc on a l'histoire de l'intégrité, ne pas en dévier, la garder et l'observer, la pratiquer, effectivement, et cela malgré les difficultés qui ne sont pas du tout estompées. Difficulté, c'est par exemple celle du verset 29, « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » C'est par exemple le 157. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, je ne m'écarte point de tes préceptes. Oui, mais oui, oui, on peut dire que c'est aussi de l'ordre de la difficulté, oui. Ensuite, le quatrième point, c'est les fruits de la loi. À quoi ça sert la loi finalement ? Eh bien, le premier point, c'est que ça révèle Dieu. Ça révèle notamment la justice de Dieu, c'est l'éducation de Dieu. Ensuite, ça rappelle l'assistance divine. Ça procure la paix et la joie. Ça fait surmonter les épreuves. Et ce qui pourrait être bien utile dans bien des situations, cela supprime les scandales. Verset 109, ma vie est continuellement exposée, je n'oublie pas ta loi. Verset 140, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Éprouvée au sens où elle est malmenée. Et puis le cinquième point, le cinquième gros chapitre, ce serait les hommes devant la loi. Donc là, c'est un peu le premier usage, usage pédagogique, la loi qui permet de révéler l'attitude humaine. Donc il y a les impies qui violent la loi. Il y a les impies qui en détournent les justes. Donc ils ne se contentent pas de transgresser la loi, ils font transgresser la loi par d'autres. Et puis il y a ceux qui se laissent faire par les impies, donc ceux qui se laissent détourner de la loi. Donc voilà un petit peu les cinq grandes thématiques que les exégètes s'accordent à reconnaître. On peut peut-être finir par quelques remarques qui vont dans le sens de l'individu. Il n'y a pas de référence au peuple. Il n'y a pas de référence à la communauté, à vrai dire. Il y a vraiment une individualisation. C'est une relation extrêmement personnel. Et c'est étonnant parce qu'on pourrait se dire, après tout, la loi, c'est ce que nous avons en commun. Eh bien, en fait, oui, mais c'est vraiment le rapport individuel à la loi qui est privilégié. Ce qui signifie que, dans le cas d'une éthique, nous ne devrions pas, dans la perspective du psaume 119, développer une éthique de principe, mais une éthique de responsabilité. J'entends par là que notre éthique ne devrait pas être valable en tout temps, en tout lieu et avec tout le monde de la même façon. Elle devrait tenir compte des situations, des personnes, du contexte, parce que c'est un rapport individualisé. Autre chose, il n'y a pas d'allusion à l'histoire du salut. Il n'y a pas cette grande saga. Alors, on peut comprendre cela par le fait que chaque personne revit sa propre histoire du salut.
Est-ce que le salut a une histoire dans la Bible ?
Oh ben oui. Dieu sauve, c'est un thème biblique.
Oui. Enfin, il n'y a pas une progression, il n'y a pas une...
On pourrait dire...
Dans la Bible. Il y a une affirmation, Dieu sauve.
Oui, mais il y a quand même quelques faits qui sauvent le peuple de l'esclavage, qui le sauvent de l'idolâtrie, qui le sauvent du non-sens. Donc, parler de l'histoire du salut, moi, je pense que ça, c'est assez honnête par rapport au Premier Testament, en tout cas. Et puis après, Jésus porte quand même le nom « Dieu sauve ». Bon. Alors après, il sauve de bien des choses, et pas forcément de ce qu'on voudrait d'ailleurs, mais... Et peut-être est-ce justement l'idée que chaque croyant doit faire alliance, en fait. avec Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement au bénéfice de l'alliance conclue par les pères, c'est à nous de sceller l'alliance, et c'est quand même la Torah, la loi, qui est le contenu de cette alliance qui est à contracter, en fait. Donc, vous voyez, c'est quand même assez moderne, cette histoire. Parce qu'on dit que dans l'histoire du christianisme, c'est la réforme protestante au XVIe siècle qui a fait la promotion de l'individualisation du croire. Mais ici, c'est déjà vrai. Simplement, il y a une grande parenthèse où il y a une institutionnalisation du fait religieux qui conduit à ce que des corps, par exemple le corps sacerdotal, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, prennent le pouvoir sur les croyances et unifient les croyances pour les groupes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques, des points de vue? Après tout, je suis encore trop pris la parole.
Le gros problème de ce croyant, c'est les autres, c'est les orgueilleux, les princes, les méchants. Enfin, c'est jamais la maladie, c'est jamais.
Oui.
Hein.
Et c'est lui aussi.
Bien sûr.
Vous voyez. Il est théologiquement correct, ce psaume. C'est-à-dire que il ne fait pas intervenir Dieu ou Dieu n'intervient pas, quoi. Vous voyez l'histoire des maladies au sens biologique du terme. Bon. Bien sûr que ça peut être intégré dans notre prière, à condition qu'on se laisse aussi évangéliser sur ce que Dieu peut faire dans ces situations-là. Mais là, en quelque sorte, un psaume qui évacue les théologies erronées. C'est un psaume qui ne retient que les lieux où le divin peut effectivement intervenir dans la compréhension que le psalmiste a. Il y a un tri. Non, c'est pas un tri, il est toujours sélectif. Il y a un tri théologique qui est effectué.
Jésus tri
et la caravane de croyants passe, oui. Et tous seront sauvés, c'est l'apocatastase. Et non pas l'apocatastrophe.
Ouais.
Voilà, d'autres remarques. Bon, c'est vrai que après, c'est pas un psaume qui nécessite de grands commentaires au sein des versets, hein, donc. C'est plus la forme, la façon dont il a été construit qui donne du sens. La fois prochaine, ce sera plutôt l'inverse. Hein. On se retrouve le 9 février avec le psaume 51, que j'ai intitulé le psaume des camisards. Déjà, vous pouvez vous demander pourquoi. Et puis là, ce n'est pas tant la forme que le contenu qui va nous mobiliser. Et j'espère que ça vous fera réfléchir.
C'est un psaume que...
Hein?